Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 123. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mon collègue,
juste Pascal Plante.
Ah bon, vous n'avez pas de prénom?
Oh, la référence out of control, mon Paul. Ouais, juste Pascal Plante, fait qu'il manque Rémi Fréchette.
C'est ça, Rémi Fréchette qui n'a pas pu nous joindre cette semaine. Il est en Europe pour un mois. On avait prévu peut-être d'enregistrer avec lui. Finalement, il y a eu un petit pépin. Donc, on va essayer de l'avoir pour le prochain épisode. Mais ça sera un épisode un peu plus léger cette semaine. On va pouvoir parler juste entre nous, toi puis moi, Pascal. Rattraper parfait, le temps perdu.
Ah ouais, c'est ça, c'est bon. Bon ben cheers mon Paul.
Ouais, et on commence en force avec la programmation du Festival des films du monde.
Ah, mauvaise foi. Ah ouais, go. Qu'est-ce qui est bon là?
Qui est annoncé. Tout est disponible sur le site web où vous pouvez aller vous procurer l'horaire physique là, en papier. Et vraiment, le site web, il y a beaucoup de problèmes. Comme la programmation du cinéma à la Belle Étoile n'est pas encore sur le site web. Beaucoup d'erreurs, des liens qui ne marchent pas. Puis c'est aussi contrairement à un site web comme, mettons, celui de Fantasia, c'est qu'il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas de photos. Donc, il y a les synopsis, mais des fois, ça ne dit pas grand-chose. Et le Festival des films du monde, on le sait, c'est en déclin depuis longtemps. Donc, il y a très peu de cinéastes connus ou des noms qui vont vous dire quelque chose. Parce que c'est ça, le Festival des films du monde, on parle de 280 films, 200, ben, les longs-métrages, 200 courts-métrages, 86 pays représentés.
Mais pour être honnête, justement, le fait de ne pas savoir rien, c'est sûr, je veux dire, sur le lot, qu'il y a une couple de petits bijoux là-dedans aussi.
Ah oui, ben oui, il y a plusieurs.
Donc, au-delà de tout ce qu'on peut dire, je pense que ça peut quand même être intéressant d'inviter les gens à gambler un peu, puis d'essayer d'aller voir certains films puis certains projets. Puis si ça se trouve, en fait, écrivez-nous sur Facebook, là, si vous avez vu un film ou un cinéaste que vous trouvez qu'il y a comme une voix, quelque chose d'intéressant. On demande rien de mieux que de savoir ça, mais c'est ça, c'est que sur 280 films, quand tu sais pas par où commencer, c'est pas très alléchant, c'est juste ça, tu sais, c'est comme... Il faut sortir les gens de chez eux, là, c'est trop facile, là, pour quelqu'un de juste, comme, passer sa soirée sur Netflix, là, tu sais, fait qu'il faut rendre ça alléchant, tout ça, là. Fait qu'en tout cas, qu'est-ce qu'il y a d'alléchant, Paul?
Oui, voilà, et juste pour rappeler aussi les informations, le festival commence le 27 août, ce jeudi, avec le film Mahomet, c'est le film d'ouverture. C'est une grande production de 3 heures, film de l'Iran, qui est financé par le gouvernement à hauteur de, je pense, 30 millions de dollars. C'est comme la plus grosse production là-bas. Et c'est un film, donc, qui est assez controversé. Il était censé jouer dans un festival, justement, en Iran. Et, bon, on dit que la copie n'était pas prête. D'autres vont dire que c'était peut-être trop délicat de le faire jouer dans son propre pays d'origine. Mais c'est parce que ça représente, donc, les jeunes années du prophète. Et évidemment, comme les actualités nous l'ont tristement rappelé en ce début d'année, on le sait que toutes les représentations du prophète sont interdites, c'est tabou. Mais dans ce cas-là, c'est qu'on ne voit jamais le visage de l'acteur.
Mais c'est le protagoniste. C'est vraiment le protagoniste, puis on ne voit jamais son visage. C'est comme shooté comme genre Doom puis Duke Nukem ou genre.
Ben, c'est ça. Non, ben, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas vu encore. Non, okay. Mais c'est ça, c'est sur ses jeunes années aussi. Donc c'est avant qu'il devienne un peu la figure du prophète. Donc, moi, ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir ça. C'est déjà, je trouve, beaucoup plus intéressant que certains films d'ouverture des années précédentes. Et le film de clôture, le 7 septembre, c'est une comédie belge, une comédie musicale belge. La Brabanconne, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement du nom. Mais une autre proposition intéressante, c'est comédie musicale, ça fait du bien, des fois, de ce genre de film-là. Donc, les films que j'ai retenus, moi, pour ma part, le gros morceau, je pense, attendu par les cinéphiles, c'était présenté à Berlin, c'est le nouveau film de Peter Greenaway, Eisenstein in Guantanamo. Je suis pas sûr de bien le prononcer, je me trompe tout le temps avec Guantanamo, mais c'est pas du tout la même chose.
Eisenstein à Guantanamo, ça serait un film que je paierais pour aller voir.
C'est ça, donc on parle d'un biopic très fictif sur Sergei Eisenstein quand il est allé au Mexique pour tourner un de ses films.
Ouais.
Ça risque d'être très éclaté pour ceux qui connaissent le cinéaste. Moi, je suis vraiment pas familier, en fait. J'en ai entendu parler, mais t'as-tu vu un peu les films de Peter Greenaway, Pascal?
Ouais, Peter Greenaway, là, puis récemment, j'ai vu The Draftsman Contract, là, qui est incroyable.
C'est un de ses premiers films, ça.
Ouais, puis, tu sais, vraiment, là, Wes Anderson, il est pas né dans une bulle, hein, tu sais, puis vraiment, je pense qu'il doit beaucoup à un genre de Peter Greenaway. Si vous aimez ça, un cinéma très maniéré, très... très calculé, mais en même temps complètement décalé, complètement déjanté, mais quand même des personnages, tu sais. Parce que c'est pas juste de l'expérimental, tu sais, du formel. Il y a quand même tout le temps une trame, une histoire, des personnages, un peu d'humanité. Ce qui fait finalement la force de Wes Anderson, puis ce qui fait vraiment pâlir les imitateurs, hein, en général. Puis c'est ça, Peter Greenaway, il est vraiment particulièrement connu pour The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, avec une jeune Helen Mirren dans un rôle comme vous ne l'avez jamais vu. Si vous pensez juste à la monarque, ça va vraiment vous dérouter, là. Mais une utilisation des couleurs vraiment incroyable, comme dans The Cook, The Thief, en tout cas, je vais juste l'appeler The Cook, là, pour les raisons de la cause, sinon on s'en sortira jamais. Mais il y a comme, ça se passe pratiquement tout dans un resto. Bon, c'est pas vrai, il y a des scènes quand même dans les ruelles, derrière le restaurant. Mané, ils vont comme dans une place pour vivre une genre d'idylle amoureuse, là, adultère, en tout cas tout ça, bon. Mais en grosse partie, ça se passe dans un restaurant, mais chaque pièce est vraiment comme une pièce particulière, comme il y a une pièce toute blanche, une pièce toute bleue, une pièce toute verte, une pièce toute rouge. Puis c'est très, très, très distinctif, ça fait vraiment comme un gros ballet, le film, c'est sa progression, son mouvement de caméra, ça bouge vraiment de façon très gracieuse, mais contrairement à un Wes Anderson, il n'a pas peur d'aller dans des thématiques très, très trash finalement, tu sais, comme The Cook, c'est kip, tu sais, en tout cas, ça jongle un peu avec du cannibalisme, là, donc c'est quelque chose que, par exemple, c'est très déjanté, il faut le voir pour le croire, il a fait aussi des films de science-fiction vraiment particuliers. Mon préféré, c'est Drowning by Numbers, une histoire sur justement des femmes qui noient là, chacun leur amant, puis qui essaient de s'en tirer, puis qui se mettent comme en... Ils essayent de soudoyer un inspecteur dans une petite ville, puis là, ben, tu sais, ça devient clair comme de l'eau de roche que l'inspecteur les aide, fait que là, la ville commence à trouver ça bizarre. Puis en tout cas, une espèce de film sur des femmes un peu mentes religieuses, là, mais avec humour, puis avec fichtrement des bonnes idées. Fait que je saurais pas par où commencer, mais The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, c'est vraiment le son plus connu, puis c'est un super film, puis c'est vraiment une voix particulière, une voix unique, là. Ouais.
Donc on a très hâte de voir ça.
Bah ben oui, bah oui, mais hein.
Autre film que de la programmation que moi j'attends beaucoup, en fait, c'est Le Dernier Loup de Jean-Jacques Hanau. C'est une coproduction avec la Chine, c'est basé sur un roman chinois. Paru en 2004. Et en fait, ce film-là, c'est le retour de Jean-Jacques Hanau au cinéma sans dialogue, en fait. Le film est sorti en France plutôt cette année ou en fin 2014, je ne me rappelle plus exactement. Il y a eu des très bonnes critiques. Et parce que, tu sais, Jean-Jacques Hanau, on le connaît pour certains films américains, mais surtout, je pense qu'il est reconnu pour La Guerre du Feu, pour le film Ours, pour ce genre de films-là où se passent finalement des dialogues, mais qui nous racontent avec le langage du cinéma des histoires très touchantes et très, très bien, là. Donc, ça, j'ai très hâte de voir ça. Aussi, ça, c'est peut-être plus étonnant, un film vraiment qu'on dirait que s'est échappé de la programmation de Fantasia, c'est un des nouveaux films de Mamoru Oshii, surtout connu pour Ghost in the Shell, vraiment, hein? Mais qui alterne donc entre l'animation et le live action, donc les films avec des vrais acteurs. Et là, on parle de The Next Generation Pat Labour, Tokyo War. Ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, avant de faire Ghost in the Shell, il avait déjà fait plusieurs films et il avait participé à plusieurs séries d'animation, dont la série Pat Labour. Et il avait réalisé donc les deux premiers films. Et donc, récemment, il a voulu faire une espèce de reboot de cette série-là. Donc, lui est un peu... Il est comme des acolytes, ils sont dans une gang d'animateurs. Ils ont fait une série de 13 épisodes qui durent chacun 48 minutes. Qui ont rebooté ça, et ça se concluait avec un long métrage donc de Mamoru Oshii qui est sorti au Japon. Et là, c'est ça, nous on a seulement que le long métrage qui n'est pas d'animation, qui est en live action avec beaucoup d'effets spéciaux, qui arrive au festival. Donc, à moins d'avoir suivi la série, que je pense qui n'est même pas disponible ici, ça va être assez dur à suivre. Mais bon, pour les fans de combats de gros mechas, de gros robots géants avec des épées, ça risque d'être le fun. Mais ouais, c'est vraiment étrange de voir ce film-là dans la programmation du Festival des films du monde. Mais pourquoi pas. Sinon, toujours un gage de sûreté, je trouve, c'est la programmation, c'est ça, à la Belle Étoile, le gros écran gonflable à la place des arts.
C'est des films que beaucoup de gens ont vus, mais qui peuvent valoir vraiment la peine de revoir, revisiter. Ben oui.
C'est ça, des gros classiques à chaque soir à 8h30. Donc, arrivez tôt aussi, hein, parce que c'est toujours très populaire. C'est dur de se trouver une bonne place pour ces projections-là. Les quelques films que j'ai retenus, un film que tu as vu il n'y a pas longtemps, Pascal, La Dolce Vita.
Hey, j'ai réécouté. Federico Fellini. Ah oui, j'ai réécouté hier soir, imagine.
Ouais. Un chef-d'œuvre intemporel, hein. Ça fait quoi, 50 ans que le film est sorti, puis c'est encore
Ben
toujours
ouais,
aussi bon?
1960. Moi, c'est un de mes Fellini préférés, mais moi, j'adore le Fellini avec sa période un petit peu plus comme réaliste, tu sais, quand il sort un peu du néo-réalisme et qu'il met un peu de poésie puis un peu de magie, mais toujours au compte-gouttes, comme tu sais, toute sa période de I Vitelloni jusqu'à la Dolce Vita. Moi, je préfère vraiment ce Fellini-là à 8,5. Je sais que ça sonne comme un sacrilège pour beaucoup, beaucoup de cinéphiles, mais c'est ça, pour moi, la Dolce Vita, ce serait peut-être son dernier grand, grand, grand chef-d'œuvre, même si je respecte 8,5 là, à fond, là. On peut pas ne pas respecter 8,5. Mais c'est vraiment la période de Fellini qui me fait capoter. Puis la Dolce Vita à la Belle Étoile, ça risque d'être vraiment quelque chose parce que c'est un film de contexte, on dirait. C'est comme le personnage, finalement, est un peu une genre de coquille fantôme qui se promène dans un Rome nocturne, qui fait toujours partie de son environnement. S'il est dans un nightclub, s'il est en plein milieu d'une genre de reconstitution miracle complètement chaotique, si, je veux dire, le film ouvre sur une statue de Jésus qui est comme amené par des hélicoptères. Là. Tu sais, il y a toujours une volonté chez Fellini, ou du moins dans cette période-là, de rapetisser son personnage. Tu sais, le personnage qui est là sur grand écran, mais il est rapetissé dans son contexte. Il n'est pas aussi grand qu'on pouvait penser parce qu'il est tout le temps partie prenante de son environnement. La Dolce Vita est très inspirant pour ça, en fait. Tu sais, comment que le contexte caractérise tout le monde. Puis ouais, je veux dire, c'est un film intemporel. Il y a tellement de grands moments de cinéma dans ce film-là. Il y a tellement de grandes scènes. Les détracteurs vont trouver que c'est peut-être décousu puis que c'est peut-être long, ce qui est un peu vrai. Mais ça fait finalement la force de Fellini, justement, comme on passe d'une bulle à une autre. Un peu comme la vie, finalement. Je veux dire, la vie n'est pas une belle histoire tracée.
Là. Mais c'est le propre de ce genre de film-là, un peu nocturne. Tu sais, comme on parle de balade de soirée en soirée, puis c'est des discussions qui commencent et qui ne finissent pas, qui sont juste toujours en cours.
Exact.
Donc, c'est ça avec bien, justement, de le voir au centre-ville de
Exactement.
Montréal.
Puis aussi, tu sais, je veux dire, ça aussi, ça peut encore sonner comme un sacrilège, mais ça peut être le genre de film où on peut peut-être s'arrêter, voir, tu sais, je sais pas si vous passez par là, tu peux arriver dans le film, je sais pas, moi, t'écraser là une heure, une demi-heure, puis peut-être, tu sais, filer si t'es pressé. Ça se peut, ça, tu sais, la Dolce Vita, elle peut exister un peu, je pense, comme ça, comme parce que chaque scène est un tableau, chaque scène est une bulle aussi, là.
Ouais, puis c'est comme un grand feuilleton, ça, comme un 3 heures de film.
Exactement, exactement. Mais c'est... ouais, ça, c'est tout un cadeau que le FFM fait, quand même.
Un autre film, cette fois-ci québécois, un de mes films québécois préférés, en fait, Le Confessionnal de Robert Lepage.
Ah ouais, tant que ça? J'aime beaucoup,
oui,
mais... Ah ouais, tant que ça?
Ah ouais, pour moi, c'est vraiment un très grand film de notre filmographie. J'avais déjà, d'ailleurs, fait un travail dessus pour un de mes cours à l'université. Puis, il faudrait que je fasse une critique, d'ailleurs, de ce film-là, pour notre titre. Mais ouais, non, très bon film que j'adore. Je trouve que c'est dommage que je trouve que Robert Lepage n'a jamais peut-être égalé ce film-là. Mais c'est souvent le cas des premiers films. T'sais. Il y a souvent des cinéastes que c'est vraiment au début de leur carrière qu'ils sont à leur sommet. Puis d'ailleurs, ce qui est encore plus triste, c'est que maintenant, il ne veut plus faire du cinéma. Il n'est plus intéressé par notre industrie. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec certains producteurs, puis avec téléfilms. Donc... puis tu sais, il y a moins besoin de notre industrie que notre industrie a besoin de lui, là. Donc voilà. Et finalement aussi, le dernier film que je souligne, Derzu Uzala d'Akira
Ah,
Kurosawa.
Il est beau ce film-là, puis il est vraiment... C'est un film là qui est sorti, je pense, 2 ans avant Star Wars, puis vous allez reconnaître comme plein de... Là, on parle de Star Wars en malade, là, depuis... On va continuer en parlant en malade, mais Derzu Uzala, ça, puis The Hidden Fortress de Kurosawa, c'est quasiment, tu prends les deux films, puis t'as à peu près, t'as la moitié des références, puis des influences, puis quasiment, là, d'un film comme Star Wars, c'est vraiment surprenant. Puis, mais Derzu Uzala, c'est un film particulier, hein? C'est le premier film que Kurosawa a fait après sa tentative de suicide. T'sais, après Dodeskaden, qui a été un gros échec commercial, puis à tous les niveaux, en 70, Kurosawa, c'est ça, il a voulu, t'sais, il a fait une tentative de suicide, puis ça a pris, soit il y a du financement soviétique dans Dersu Zala, puis finalement du backing américain. Tous ces derniers films, t'sais, il y a des genre George Lucas, justement, ou... Martin Scorsese, Dersu Uzala un peu moins, là, c'est pas vraiment les Américains qui sont allés derrière lui, mais à partir de 75, chaque film de Kurosawa, finalement, se construisait puis se mettait sur pied parce que il y a trop de fans partout dans le monde qui se disent, s'il n'y a pas un autre film de Sensei, je veux dire, le monde passe à côté de quelque chose. Puis là, t'as Dersu Uzala en 75, t'as Kagemusha en 80, t'as Ran, qui est probablement son plus grand film, à montrer un humble avis, c'est Dreams. Tu sais, il y a quand même une dernière période très, très intéressante. Puis Dersu Uzala marque un premier film qui, justement, on dirait qu'il veut pas nécessairement plaire au Japon. Donc, ça en fait un film très personnel, super humain, une belle fable là, naturelle, tu sais, ode à la nature, ode à la simplicité, tu sais, comme Kurosawa le fait souvent, mais sans le didactisme là, tu sais, qu'on peut lui critiquer par moment. C'est juste un beau conte, une belle histoire. C'est un très bon film, au fait. Fait que ça aussi, c'est un autre beau cadeau, puis je trouve que c'est le fun parce que La Dolce Vita, c'est dans les trois films qu'on parle quand on pense à Fellini, mais Dersu Zala, c'est pas dans les trois films qu'on pense. Ouais, tu penses Kurosawa, tu vas penser Seven Samurai, Rashomon, Ran peut-être, ou d'autres, là, Throne of Blood, je sais pas, mais Dersu Zala arrive loin dans la conversation, donc c'est intéressant finalement qu'ils sont allés vers un film peut-être plus obscur, entre gros guillemets. Ouais. Ouais.
C'est intéressant aussi ce film-là parce que ça fait suite aussi à une certaine amitié et admiration qui est très mutuelle entre Kurosawa et Tarkovsky. Mm-hmm, mm-hmm. Kurosawa qui avait justement visité le set de Solaris, qui avait été très impressionné puis qui voulait justement. Tu connais cette anecdote? Il voulait rencontrer Tarkovsky, puis Tarkovsky était trop intimidé, donc il se cachait, il courait, puis finalement cette journée-là, il ne l'a jamais rencontré.
Ah non, je ne savais pas
lorsque,
ça.
Lorsque Kurosawa était sur le set de Solaris. Mais les deux hommes s'admiraient. Ouais. Puis je pense que c'est ça. D'où justement le financement un peu de la Russie pour ce film-là, de l'URSS.
Oui, ouais, absolument.
Donc voilà. Et je voulais juste rappeler aussi, pour finir, le Festival des films du monde, avant que j'oublie, que tous les étudiants en cinéma ou en journalisme peuvent appliquer pour avoir une passe gratuite au festival. Le formulaire est en ligne. Donc, vous n'avez aucune excuse, hein. Si ça vous tente, vous n'êtes pas sûr. Remplissez le formulaire si vous êtes étudiant en cinéma ou en journalisme et allez voir quelques films et dites-nous si vous avez un coup de cœur sur notre page Facebook.
Voilà.
Parfait. Sinon, on fait un petit retour dans le passé, Pascal. Un film qui était à Fantasia, un film québécois qui est cependant produit, c'est une coproduction entre la France et les États-Unis. C'est un film de Pascal Payan, un cinéaste qu'on avait invité au podcast en entrevue il y a plusieurs années, en fait, je pense que c'est un de nos premiers épisodes.
Ouais.
Il nous parlait déjà de ce film-là, en fait, qui était en production. Et lui, il avait fait un court-métrage de 5 minutes, également intitulé On the Horizon, comme une espèce de demo-proof, là, pour essayer de montrer ce qu'il voulait faire.
Je pense aussi montrer qu'est-ce qu'il peut faire à équipe très réduite, parce que ce qu'il faut dire aussi autour de la production de ce film-là, c'est que c'est un film à très petit budget, mais qui cache finalement son petit budget. D'ailleurs, une esthétique qui est, ma foi, assez impressionnante. T'sais. Il est capable de... C'est tout en lumière naturelle. Il travaille très, très bien, je pense, en extérieur, avec le soleil. Puis, tu sais, il y a comme une espèce de façon un peu fashion shoot, tu sais, une approche des images qui est très, très léchée, mais c'est pas nécessairement négatif dans certains moments. En tout cas, du moins, ça donne une certaine qualité visuelle puis de la production value à un film qui, autrement, aurait pu, justement... Tu veux pas qu'un film comme ça look cheap, je pense, tu sais, parce que c'est ça. Puis ça, il le fait très bien, puis je pense que c'était la meilleure démonstration, c'était probablement avec ses courts-métrages. Maintenant, c'est quoi Under Horizon, Paul?
Ben ça, Under Horizon, donc, version long-métrage, c'est dur à décrire, en fait. C'est principalement sur deux amis, hommes et femmes, qui sont très beaux, très jeunes, look mannequin, et qui vont vivre des aventures sur la route, un peu ici et là, entre le désert de sel en Utah et un château incroyable en France.
Ouais.
C'est drôle parce que, tu sais... Il y a beaucoup de parallèles à faire avec un film comme La Dolce Vita, où j'ai écouté justement peut-être son pendant contemporain il n'y a pas longtemps, j'ai écouté La Grande Beauté
quel film.
De Sorrentino, ça a donné comme film. Ça. Et ces trois films vraiment sur le un peu le je sais pas comment je dirais ça, le désir, essayer d'être jeune, vivre sa jeunesse, être nonchalant, se promener sans avoir de but précis, profiter de la chair humaine. Mais moi, le film de Pascal Payan, d'entrée de jeu, je vais le dire, j'ai vraiment pas accroché du tout au personnage. Uh-huh. Et j'ai vraiment eu la misère, en fait, à apprécier quoi que ce soit du film. Même les images belles, parce que je trouve qu'elles sont tournées. Toi, tu parlais de fashion show, un peu. Ben, moi, j'avais l'impression, des fois, d'être dans comme une pub de H&M ou quelque chose comme ça. Uh-huh, uh-huh. Puis j'ai réfléchi longtemps à pourquoi est-ce que j'avais autant un rejet fort là, face au film, là, dès les premières minutes. Mais je pense que c'est pas seulement une question de scénario. Mais je pense que c'est vraiment la manière de s'y tourner, c'est que souvent, plutôt qu'être en plan rapproché ou plutôt que avoir un gros plan, peut-être pour capter les émotions des personnages, il y a comme une distance qui se crée parce qu'on tourne tout le temps, mettons, plan pied, pour qu'on voit vraiment comme leur habit, puis comment ils sont, leur pose, ils prennent une cigarette, ils ont des lunettes fumées contre un char. tu sais, les personnages, ils se la jouent très cool aussi, là. Puis ils sont très conscients, puis on dirait qu'ils ne s'abandonnent jamais vraiment. On ne peut jamais vraiment aller au-delà de la coquille, tu sais, au-delà de la surface, sauf à quelques rares scènes que, justement, j'ai beaucoup appréciées, comme il y a une scène, justement, qui est tournée, c'est vraiment le moment fort du film, qui est tournée dans le désert de sel, puis que c'est une espèce d'engueulade entre les deux amis.
Ouais, amoureux. En plan séquence, là, c'est bien
en
fait.
En plan ça. Séquence. Il y a comme du gros vent aussi, puis ils sont obligés de crier par-dessus le vent. Puis, cette scène-là, enfin, j'avais l'impression qu'on allait plus loin, puis qu'on allait chercher les faiblesses des personnages, qu'on allait chercher un peu leur humanité. Parce que le reste du film, j'ai vraiment l'impression, c'est comme, tu sais, c'est une espèce de pub d'H&M où tu vois des jeunes, puis tu sais, la manière que c'est monté aussi, c'est ça, c'est que tes voix s'embrasser, se coller, je sais pas, marcher sur des roches, sur l'eau, tu sais, avoir du fun. Puis je trouvais ça tellement sans contenu, tu sais, j'avais l'impression que c'était vide. Mais sans nécessairement la satire que peut apporter certains auteurs ou certains films, tu sais. J'avais pas l'impression de voir une espèce de critique de la jeunesse contemporaine non plus, tu sais. J'avais juste l'impression de voir des personnages creux qui avaient pas grand-chose à se dire, puis qui portaient des lunettes fumées, qui fumaient des cigarettes. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de l'approche du film?
Ben, moi, en fait, c'est ce qu'il faut dire au niveau du synopsis, c'est l'histoire d'un gars qui reçoit un appel d'une femme mystérieuse qui l'invite justement à partir sur la route avec lui. Le gars laisse tout derrière, finalement. Le gars, c'est un photographe, justement, de fashion. Donc déjà là, je pense qu'on peut quand même trouver un genre d'écho peut-être entre le style du film puis le mode de vie des personnages. La fille, c'est très... Ou peut-être que ça m'a échappé, mais je pense que c'est pas vraiment mentionné qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, là. Puis là, justement, donc lui, il fout toutes ses responsabilités de côté, part avec cette fille-là. On comprend rapidement qu'il y a quelque chose d'un peu dangereux peut-être qui va se développer, tu sais... folie ou une genre d'incompréhension entre les personnages qu'on sent qu'ils risquent d'éclater. Puis comme de fait, justement, ça part en road, ils partent en road trip, il y a des rencontres, il y a plusieurs vignettes, des scènes vignettes, et ça se rompt, et ensuite les personnages prennent un peu chacun leur côté, puis là, ben, je vous dis plus qu'est-ce qui se passe, là. Est-ce qu'ils se retrouvent, est-ce qu'ils se retrouvent pas, bon, qui fait quoi à partir de là, ben, vous le découvrirez si vous voulez voir le film. Moi, en fait, je trouve que le film devient pratiquement plus intéressant lorsque les personnages prennent chacun leur route séparée, pour être bien honnête. La première portion, la portion road trip, on comprend rapidement, je pense, la dynamique entre les personnages, puis il y a pas beaucoup plus, tu sais, par exemple... Il y a comme trois scènes où ils s'engueulent, exemple, tu sais, dans la première portion du film où ils sont ensemble en road trip. Mais peut-être que finalement, faire monter la tension en silence puis avoir une engueulade aurait été beaucoup plus cathartique, aurait été peut-être même plus forte, plus payante. Puis, non, ouais, c'est ça. Dès que je l'ai dit, je me suis dit, oh, Paul va arriver. Plus payante. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et finalement, sans charcuter le film, ça aurait juste pu être plus rapide. Maintenant, le film fait 88 minutes. Je pense que le film peut-être se battait pour avoir une durée de long métrage qui est légitime. Puis c'est peut-être finalement au détriment, tu sais, parce que je sais que c'est un peu un no man's land pour un film de fiction d'être 1h10, exemple, tu sais, ou 1h. Mais peut-être que c'est ce que le film avait besoin. Parce que finalement, la nouveauté puis la beauté dont je parlais, qui est quand même très bien fait, puis encore une fois, je reviens à ça, faut le donner. Moi, ça m'a pas dérangé une fois que j'ai accepté que c'est ça l'esthétique du film. Ce dont tu parlais, là, je parle. Parce que, je sais pas, je le justifiais beaucoup avec le mode de vie des personnages. Est-ce que c'est critiquer tout ça? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un réel amour de vouloir filmer les protagonistes de cette façon-là. Mais, en tout cas, je me suis comme laissé prendre au jeu. Pour ça, du moins. Maintenant, je trouve que finalement, le film fonctionne bien. Ça va sonner harsh, là, mais fonctionne bien quand il n'y a pas trop de dialogue. Je trouve que les premières scènes où mettons, l'homme et la femme sur la route, tu sais, se parlent, commencent à... Il y a quelque chose dans là, leur dynamique, que j'y croyais plus tant que ça, versus quand ils font juste jouer aux grands-enfants. Maintenant, j'arrive à la critique principale du film. C'est pas dans l'emballage, c'est même pas dans la structure qui est un peu... la structure narrative est assez éclatée, comme je disais, parce qu'après le premier acte, on va vraiment un tout partout, puis là, il y a des belles surprises quand même au niveau de comment les événements progressent. Moi, ma critique, au fait, c'est que les personnages réagissent tous comme des personnages... de cinéma. Puis je vais m'expliquer. Tu sais, comme mettons, t'as un gars, OK, qui est là, puis qui embrasse une fille, puis qui, là, à la dernière seconde, il va dire « Ah non, je t'invite pas chez moi, finalement, là, j'ai trop de choses dans ma tête, puis désolé. » tu sais, il y a mille et une façons comment une fille peut réagir à ça. Tu sais, elle peut décider de poser des questions, ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle peut décider. Elle pourrait réagir de mille et une façons, mais la façon cinéma de réagir, c'est d'être fâchée, tu sais. Puis, évidemment, dans The Horizon, le personnage va être fâché. Ou, tu sais, en tout cas, c'est peut-être obscur un peu là, comment je l'explique, mais. Tu sais, comme le nombre de scènes aussi où il y a genre des engueulades puis un personnage fait juste s'en aller, tu sais, comme se sauver un peu, là, tu sais. Mm-hmm. Mais dans la vie, moi, ça m'énerve parce que c'est pas comme ça, je trouve, que les choses évoluent, que les choses se règlent, que les gens interagissent réellement.
Mais en fait, c'est qu'il y a des clichés.
C'est prôné aux clichés de films romantiques, mais comme très américains, tu sais. La façon comment, à chaque soubresaut puis à chaque nœud dramatique, les personnages vont réagir, c'est presque systématiquement comment... Il n'y a pas de surprise, tu sais. Il n'y a pas de surprise dans aucune façon que les personnages vont jouer... psychologiquement vont réagir à tout ça. Puis ça, je trouve que c'est peut-être le plus grand péché de construction de personnages, du moins, du film. Là.
Non, c'est ça. C'est que finalement, c'est que il y a comme beaucoup de clichés, comme tu le dis. Puis moi, c'est ça, comme je te disais, j'avais la misère à m'attacher aux personnages. Puis là, les personnages principaux, déjà, j'avais la misère à m'attacher. Mais tu sais, il y a certains personnages secondaires de ce film-là, tu sais, c'est carrément des caricatures. Tu sais, c'est comme, OK, lui, c'est le méchant. Tu sais, lui, c'est comme le gars, genre, alpha, qui veut violer tout ce qui bouge. Genre, tu sais. Ouais. C'est comme, qu'est-ce que ça apporte au film? Tu sais, je trouve que certains personnages que j'ai la misère à justifier dans le film, outre que ça prendrait peut-être un antagoniste pour apporter du drame, tu sais. Mais faut aller plus loin de ça prend ça puis ça pour faire un film, faut que ça dure au moins 80 minutes, faut qu'il... Ouais. Tu sais, c'est comme, je pense que le film aurait profité à se concentrer sur ses forces, puis oublier qu'est-ce qui fait un film, tu sais.
Pour être fair, il y a une scène que j'aime particulièrement avec un personnage secondaire qui amène comme un espèce de vent nouveau à la dynamique des deux protagonistes qui partent justement en road trip. Là. Ouais. C'est, il y a un moment donné, je pense qu'il arrive chez une amie qui critique beaucoup le mode de vie, qui critique pas vraiment la fille, mais qui critique beaucoup, je pense, le gars. Puis on dirait que c'est le fun parce qu'enfin, il y a un personnage auquel on s'identifie parce que nos critiques, finalement, que nous, on peut avoir sur les personnages, ils sont doublés en bouche d'un personnage aussi qui les regarde aller puis qui est pas juste comme en pamoison devant le fait qu'ils sont cool, fait que YOLO, puis que c'est genre, tu sais, on vit notre vie, là, puis genre, on réalise nos rêves un peu, là, tu sais. Enfin, il y avait comme quelqu'un qui était groundé dans la responsabilité, puis c'est parce que c'est dur, puis ça aussi, c'est un cliché de cinéma, c'est dur de s'attacher à un personnage qui n'a pas de responsabilité, tu sais. J'ai pensé, moi, à pourquoi le gars, je le filais pas dans mes entrailles, puis je suis comme, moi, là, dans ma vie, là, mettons que je décide, là, tu sais, de partir une semaine, je vais l'avoir planifié, là, tu sais, mon départ un peu, puis je vais avoir calculé mon recklessness, là, désolé l'anglais, là, mais juste partir pour partir, je sais que c'est comme un message, là, puis c'est très trendy, là, de penser comme ça, mais... On s'y attache pas parce que finalement, c'est très, très rare qu'on fait ça. T'sais, c'est très, très rare qu'on a ce genre de réalisation-là, là, ultime, de décider de prendre un pack-sac, de s'en aller, puis fuck the world, puis je vis mon idylle avec telle personne ou autre. Puis pendant très longtemps, on suit ces personnages-là qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont groundés dans une réalité, même la réalité du film, qui n'ont pas justement de poids, de fardeau, de responsabilité. La fille, on sait pas qu'est-ce qu'elle a laissé de côté, on sait pas c'est quoi son travail, on sait pas si elle a famille, amis, à part peut-être cette scène-là. Donc, je pense que c'est ça qui en fait des idées plus que des personnages auxquels on s'attache, peut-être. Mm-hmm. Fait que, mais, ceci étant dit, je me suis surpris à, dans mes critiques de mes personnages, de me dire... C'est un peu comme un feuilleton télé, là, de se dire « Ben non, on réagit pas comme ça. » Ou mettons, le personnage va appeler, puis là, t'es comme « Mais non, mais rappelle-la pas, ou genre, va avec elle, elle est bien plus cool, elle ou lui, tu sais. »
Donc, t'es quand même arrivé à ton siège, là.
Ben, ça a comme fini par quand même marcher, mais ça a marché mieux, justement, après la séquence initiale, là, la longue séquence, finalement, qui met tout le film en avant, qui est le road trip un peu existentiel de gens qui recherche rien, vraiment, finalement. moi, ce serait ça, là, pas mal mon opinion sur Under Horizon. Une atmosphère bien rendue, un visuel distinctif intéressant, quand même.
Parfait, donc on a hâte de voir ce qu'il va nous proposer à l'avenir, Pascal Payan, malgré nos réserves du film. Sinon, t'as vu un film que tu m'as dit c'était un de tes films préférés
Oh
cette année.
shit, mais
Donc, ce film-là qui est plus à l'affiche, je pense. Hein. Je pense qu'il a quitté l'affiche à Montréal, mais il a été là plusieurs semaines. Le film Dope de Rick
ouais.
Famuyiwa.
Oui, Eric Famuyiwa, écrit et réalisé par son premier film en 5 ans. Regardez pas trop sa filmographie, ça a pas l'air de voler très 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 haut. J'ai regardé, bon, faut dire que pour faire un procès honnête, j'ai pas vu ses films antérieurs. J'ai regardé les trailers par exemple parce que moi j'ai été impressionné à ce point par ce film et par ce cinéaste. Je pense que ça a l'air d'être un genre de départ. Ça a l'air d'être un penchant très indépendant pour un cinéaste qui a peut-être fait un premier film quand même indie, puis qui après ça est allé tout de suite dans des grosses productions, peut-être un peu plus manufacturées. Dope est une curiosité, puis Dope est vraiment porte bien son titre. C'est dope, c'est bon, c'est drôle, c'est le fun. Pis, je te jure, là, j'ai aimé ça à ce point. Là, genre, je peux pas vous le recommander plus que ça, ce film-là. Sachant que le film a quand même pas des critiques dithyrambiques, hein, dans le temps de Sundance en janvier, il y a eu un bon buzz. Le film a fait quand même bien jaser. Non, mais
Non,
depuis.
non, mais c'est juste que Dope a eu un bon buzz.
Dope a eu un bon buzz. Depuis, ça a comme un petit peu coulé, on dirait. La sortie au forum a été complètement pas médiatisée.
Au début, il y
Tu
avait
sais,
un
le film
high.
est. Hein?
Au
Il
début,
y
il y avait un
a eu
high.
un high. Il y a eu un high, puis quand
Après ça, ça a décanté.
ça a décanté, absolument. Non, mais genre, je comprends pas qu'est-ce que ça révèle hein, sur le public québécois, tu sais, que le film noir ait aussi peu marché.
Ben écoute,
Bon,
je veux dire.
au-delà du fait que le film. Que le film soit pas nécessairement un grand film, mais tu sais, pourquoi qu'il n'y a pas eu plus de curieux? Pourquoi que Dope est genre sorti en catimini, resté quelques semaines, avait une projection ou deux projections par jour, s'est en allé, alors que le film a un gros, tu sais, avait un bon buzz, là, tu sais, d'un point de vue cinéphilique, d'un point de vue critique.
En même temps, tu sais, je veux dire, on ne peut pas comparer nos populations noires à la population aux États-Unis,
Je sais.
où la communauté est plus déchirée que jamais en 2015, tu sais, avec
Ah,
tout ce qui se passe
c'est
dernièrement.
sûr. Mais tu sais, comme. Puis je vais y venir parce que j'ai aussi vu Straight Outta Compton. Straight Outta Compton qui a fait quand même des chiffres intéressants au Québec, mais aux États-Unis, c'est un smash, là. C'est un gros, gros hit.
Ce film-là va faire plus d'argent que Mad Max Fury Road.
C'est fou. Non, mais c'est ça. Mais.
C'est fou, là.
Ben oui, ben tu sais.
Pour une fraction du budget,
Mais moi, je trouve ça à la limite le fun qu'aux États-Unis, il y a quelques films comme ça qui font beaucoup de sous versus. Là, il commence à avoir des films de super-héros. Fantastic Four, ça a vraiment pas levé. Il y a une couple d'autres films de super-héros cette année qui ont comme perdu de la vitesse. Si enfin les films de super-héros sont plus juste le go-to facile, peut-être qu'on va finalement avoir des blockbusters qui ont un petit peu plus d'allure, là. Parce que ça, c'est mon opinion. Là, je sais que je m'égare, je vais revenir à Dope.
Donc, ce que tu veux finalement, c'est le Straight Outta Compton Universe. Genre plein de films dérivés, le film de Snoop
Non,
Dogg.
pas nécessairement. J'aime l'heureux accident. Puis là, déjà, ils ont annoncé, en fait, hein, qu'ils voulaient faire une genre de ben, suite, mais c'est pas vraiment une suite, là, un genre de spin-off qui va se concentrer plus sur Tupac. Puis, c'est qui donc Tupac? Puis, pas Eminem? C'était pas Eminem. En tout cas, bref, ils vont faire un autre film un peu du genre Straight Outta Compton dans les années de Death Row autour de Tupac quand même. Ça va peut-être commencer à devenir un peu risqué. Je vais revenir à Straight Outta Compton, parce que j'ai envie d'en parler. J'ai bien aimé, je vais le dire d'entrée de jeu aussi.
Parfait.
Mais c'est pas au niveau de Dope. Puis Dope, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier, OK? Parce que c'est comme un film indie, OK? Mais avec plus de budget musique que virtuellement n'importe quel film hollywoodien à budget de 60 millions et plus, tu sais. Le film est produit, entre autres, par Pharrell Williams, OK?
Ça aide à t'ouvrir des portes là, pour
Ouais,
niveau
ça aide à
musique
ouvrir
là.
des portes. Mais vraiment, là, tu sais, moi, j'ai comme un gros buzz un peu hip-hop classique aussi, là, tu sais. On dirait que je réécoute mon Nas, mon Tribe Called Quest, je réécoute mon, je sais pas, De La Soul, tu sais, ces bands-là. Puis la soundtrack de Dope, là, c'est orgasmique, là. C'est genre, c'est comme. Non, mais t'as vraiment t'as un moment, là, genre, mettons, un moment de tension, puis là, t'as comme la toune, genre, Rebel Without a Pause de Public Enemy, si vous connaissez un peu Public Enemy. Moi, c'est comme mon band de rap classique, genre, préféré. Pis là, j'étais dans la salle de cinéma, puis j'étais comme, yes, enfin! Public
Mais
Enemy, là, tu sais.
okay, mais c'est quoi le synopsis? Parce que bon,
Bon, c'est ça.
la musique tient une place importante.
La musique, non, exactement, la musique tient une place immense dans le film. Dope, on suit un personnage, un geek. qui est comme un gros fan de hip-hop là, de début des années 90, qui est, tu sais, comme c'est comme un peu ses icônes religieuses quasiment là, c'est comme une trinité là. Il va écouter son Tribe Called Quest comme si c'était justement des dieux. Il prend des tips de fashion, désolé, oh mon dieu, je parle tellement franglais, mais ce film s'appelle quand même Dope là, fait que je m'en permets. Puis donc il est vraiment 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 là-dedans. Puis le film, finalement, fait un exposé très intéressant sur le fait que dans un milieu, Los Angeles, un certain quartier, mais qui est jamais nommé là, dans le film, là, on a vraiment l'impression que c'est une allégorie sur n'importe quelle banlieue un peu dangereuse de LA. Il se retrouve un peu malgré lui. Il y a un dealer de drogue joué par A$AP Rocky. Il commence à jaser, puis là... Il se prend comme un peu d'amitié avec le geek parce qu'il commence justement à parler de références de hip-hop. Puis il est comme « Ah, tu connais tes shit. » Puis là, l'autre est comme « Ah, toi aussi, tu sais. » Puis là, finalement... Non, mais justement, ça part de même. Il y a une genre d'amitié un peu étrange entre un gars vraiment rough, mais beau parleur, qui paraît bien. Tu sais, une image d'un drug dealer qui est très alléchante, là, très invitante quand même. Puis ça, c'est déconstruit par la suite parce que là, il se fait inviter à un party. Puis là, il débat, puis le personnage principal, puis ses deux acolytes, qui sont, by the way, là, c'est vraiment des sidekicks en or, là, je vais y revenir, là, il y a comme une tomboy lesbienne qui est drôle, là, elle est tellement drôle, puis l'autre acolyte, c'est probablement un maghrébin, là, on sait jamais c'est quoi son origine, mais tu sais, comme, il se la joue comme un petit noir, mais en même temps, c'est ça, il vient d'une autre ethnie, puis c'est un peu un running gag dans le film, mais c'est fait avec goût, là, c'est pas un running gag juste comme simple et facile, puis un peu imbécile. En tout cas, donc c'est comme ce genre de trio-là, puis là, ils débattent, est-ce qu'on y va à ce party-là, est-ce qu'on y va pas, puis là, il a comme rencontré une fille qui allait au party, puis il est comme, ah, mais là, puis c'est un peu un coming of age aussi, tu sais, fait que là, le gars, il est comme, mais là, il y a telle fille, fait que, ok, tu sais, on va s'essayer, tu sais. Puis là, il arrive au party en question. Ça, c'est vraiment l'élément hyper déclencheur du film. Il y a une descente de police parce que dans le party, il y a quand même des deals de drogue qui se font. Puis là, le dealer, A$AP Rocky, met de la drogue, met toute l'affaire dans le sac à dos du geek sans que le geek s'en rende compte. La police embarque le drug dealer, le geek qui retourne à l'école. Puis tu sais, c'est des détails aussi, comme il arrive à l'école, puis il y a un détecteur de métal à l'entrée de chacun de ses cours. Puis tu sais, c'est tout est fait avec humour, mais il y a un exposé social qui est très déprimant là, dans l'eau. Puis c'est ça qui élève le film. Mais là, Mané, il se rend compte justement qu'il y a de la drogue dans son sac. Là, il se fait appeler par du monde qui veut avoir la drogue. Puis là, c'est une espèce de grosse course-poursuite très burlesque sur justement le geek qui doit un peu écouler le stock de drogue. Sérieusement, là, c'est orgasmique, là, c'est drôle, 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 c'est jouissif à quel point que... Même l'humour en bas de la ceinture, vu que l'attrait principal du film n'est pas ça, il passe bien un peu comme un meuble, tu sais, un peu comme un 21 Jump Street, c'est un film d'amitié avec beaucoup d'humour en bas de la ceinture, tu sais. Ouais. Ce qui fait qu'on dirait que ça coule, puis on dirait que c'est juste le ton du film, c'est un ton irrévérencieux, on accepte ça, c'est le fun. Ben, donc, c'est la même chose, il y a vraiment beaucoup de moments... C'est qui volerait un peu pas super haut là, d'un point de vue intellectuel. Mais en même temps, il y a un exposé social, j'y reviens, parce que c'est un film cruellement pertinent. Mm-hmm. Cruellement pertinent avec tout ce qui se passe, avec la brutalité policière, avec les... On psychanalyse un peu la montée accidentelle d'un gars vers le monde du crime. Parce que justement, ce protagoniste-là, qui lui veut aller à l'université, c'est ça son but dans la vie, il essaye de se tenir en dehors des problèmes, mais les problèmes lui arrivent malgré lui, l'accable malgré lui. Puis c'est, finalement, même si c'est un ton hyper comique puis hyper satirique, finalement la montée est super crédible. Tu sais que ce gars-là se ramasse à aller jusque-là, parce que là, il est dans la drogue longtemps, là, à un moment donné, il s'enfonce profondément
dans l'univers. Tu peux pas en sortir une fois que tu rentres là-dedans.
Exactement, puis donc c'est une morale qui pourrait sembler lourde et moralisatrice, puis qu'on a vu plein de fois, mais ça coule de source parce que c'est tellement juste une espèce de film un peu poursuite, puis drôle, 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 là, tu ris fort, puis longtemps, puis souvent, mais le film t'amène dans des eaux assez troubles, t'amène vers une finale qui est très très punch, qui a pas peur d'affirmer son message, qui peut-être a l'air un peu preacher, mais preacher à la Malcolm X, à la Martin Luther King, tu sais, preacher, là, comme genre,
yes, brother, là, à la fin, t'es comme, ah, il y a quelque chose qui vient des tripes, puis il y a vraiment une intelligence sous-jacente au teint amer qui peut avoir l'air un peu idiot. Moi, c'est un gros coup de cœur, puis je le recommande énormément. Ouais, ouais, c'est... Puis c'est juste drôle aussi, tu sais. Vous pouvez vraiment le regarder comme un divertissement pur, puis vous allez vous surprendre à penser puis à réfléchir plus, mais sans que ça devienne un devoir, sans que ce soit même forçant, tu sais. Dope, c'est dope.
Parfait, donc Dope qui devrait sortir en DVD Blu-ray bientôt, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Et Straight Outta Compton de Felix Gary Gray, ça c'est le méga blockbuster. Certaines critiques, j'ai lu quelque chose sur de Wesley Morris, un des meilleurs critiques américains qui écrit pour Grantland. Il disait que finalement, le Straight Outta Compton, lui, il n'a pas trop aimé ça. Il trouvait que ça venait quasiment comme une espèce de page Wikipédia de qui à telle époque du rap. Puis que finalement, plutôt que de faire une critique sociale engagée, on avait plutôt fait le Avengers du hip-hop. Là.
Ben, oui. Oui, absolument. C'est d'ailleurs une très bonne analogie, le Avengers du hip-hop historique. Mais je trouve que c'est une culture qui doit vénérer ses icônes quand même. T'sais, moi, je trouvais ça triste. Je vais faire une parenthèse qui est extra-cinéma. Je trouve ça triste que, mettons, tu vas au Festival d'été de Québec, okay, t'as un groupe comme Journey, okay, qui remplit les plaines d'Abraham, okay, puis Boston, puis ces bandes de rock-là, là, t'sais, qui n'ont rien fait depuis 20-30 ans. Je dis pas que c'est mauvais, là, c'est pas ça, mais... Puis t'as finalement, des fois, t'sais, genre, j'ai vu De La Soul qui ouvrait pour I Am... Puis, tu sais, c'était comme triste. T'avais l'impression que personne connaissait ça. Puis, tu sais, de la
sorte. Ouais, mais là, Pascal, OK, c'est parce que on parle. Tu sais, c'est qui au Québec, la population? Non, c'est des baby boomers, là. C'est comme 50% de la population.
Je sais.
C'est normal que la musique de baby boomers va plus remplir que.
Peut-être, je sais, Paul, mais je te dis juste que. Qu'est-ce qui explique que, mettons, tu sais, Nas a de la misère à faire des stades, puis Public Enemy, quand ils ont fait leur dernière tournée, tu sais, c'était comme les billets, ils vont coûter 50$, puis que Motley Crue, les billets coûtent 100$ au Centre Bell, tu sais. Qu'est-ce qui explique, tu sais, je trouve que c'est tellement ancré dans le temps présent, le hip-hop, que j'ai l'impression que... Il y a pas le respect puis la qu'on vénère peut-être pas assez les icônes. Maintenant, l'exception, c'est probablement la crew, justement, de Dr. Dre, Snoop Dogg, puis le Wu-Tang, mais le Wu-Tang, ça, c'est comme une bulle à part. Moi, je pense que ça, c'est les grosses exceptions, tu sais. Dr. Dre, c'est une année incroyable pour lui. Okay? Il sort son premier album en 16 ans, un album que moi, je l'aime beaucoup. Là. Je commencerai pas à faire une critique de l'album.
C'est ça, en fond, c'est un album qui est inspiré par le film, mais c'est pas la trame sonore du film.
Non, par contre, il y a des beats de l'album qu'on retrouve dans le film. Le film finit... sur le générique de fin, t'as la chanson Talking to My Diary, qui est la dernière chanson de l'album Compton de Dr. Dre. Okay. Les deux se répondent, mais non, c'est vraiment pas... d'un côté, l'album est l'album, puis d'un côté, la soundtrack du film, c'est quand même la soundtrack du film.
Okay.
Ou du moins, il va reprendre t'sais, souvent les trucs instrumentaux t'sais, de l'album, puis remanier différemment pour que ça marche un peu mieux comme trame sonore. Mais c'est quand même très distinct. Puis peut-être, qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça a l'air du Avengers du rap? C'est parce que le film est produit par Dre et est produit par Ice Cube. C'est peut-être ça qui fait en sorte que le film, on a mis une belle grosse couche de gloss par-dessus tout. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a pas, tu sais, que c'est pas un rendu d'époque qui est quand même immersif. C'est fascinant. Tu sais, comme il y a des parties où, tu sais, les gros parties déjantés avec les femmes à moitié nues tout partout, puis eux autres qui sont complètement soit sous, dopés. Tu sais, un genre de portrait très... qui d'un côté un peu glamorise, mais d'un côté non, parce qu'on peut facilement comprendre que ces jeunes-là du ghetto qui se ramassent tout d'un coup avec tout cet argent-là, savent pas quoi en faire, puis que l'espèce de quête boulimique fait partie intégrale de leur vie. Moi, ça m'a pas choqué, là. Même qu'à la limite, ça va pas assez loin. Pis ça va pas assez loin parce que tu sais qu'il y a eu, Dr. Dre a été d'ailleurs un peu accusé de faire une histoire très révisionniste, hein, lui qui a dépassé finalement de violence conjugale. Il y a un épisode aussi où ça a été mis aux nouvelles beaucoup, mais un épisode où il a battu une journaliste là, au plein cœur de la grosse beef entre Ice Cube puis NWA. T'sais, Ice Cube, lorsqu'il est parti de son chemin, a fait ça, son premier album, America's Most Wanted, qui est un gros hit. Ensuite, NWA, leur deuxième album, qui a pas vraiment marché, a fait un diss sur Ice Cube. Ice Cube est revenu avec No Vaseline, qui est comme un des diss les plus incroyables de l'histoire du rap. Comme vraiment, vraiment, vraiment enragé puis méchant. Le film montre très, très bien justement toute cette espèce de querelle-là.
OK, donc ça va, ça couvre quand même une bonne période. Oui, c'est pas juste
les absolument, débuts, absolument. C'est ça, oui, ben c'est vrai, si je peux revenir un peu en arrière. On a NWA jusque... le film ouvre sur un deal de drogue de Eazy-E. Eazy-E qui était le vrai drug dealer de la gang, là, tu sais. Puis d'ailleurs, c'est ça qui a financé NWA. NWA est parti. C'est comme... OK, on va faire de la musique. Dr. Dre est un DJ incroyable. Il se ramasse un peu avec Eazy-E, qui a justement de l'argent, qui est un gars de la rue. Il sait pas, ben, il sait quoi en faire, mais comme finalement, Dr. Dre le convainc de faire un genre de single. Le single, il cartonne complètement. Tout le monde trippe dessus. Et puis là, NWA, ils sont signés à un label. Ils se ramassent ensemble. Puis ils font leur premier album, l'album mythique Straight Outta Compton. Puis après ça, en lumière de ce succès-là, là, tout prend le bord un peu. Il y a un manager qui n'est pas complètement net. Il y a Ice Cube qui commence à se poser des questions, qui quitte le groupe. Il y a Dr. Dre qui est un peu pris entre le marteau et l'enclume parce que c'est un peu la colonne vertébrale du groupe. Hein. C'est lui qui est avec DJ Yella, mais quand même, le film prend vraiment vraiment Dr. Dre beaucoup plus à l'avant.
Ouais, on se demande pourquoi.
On se demande pourquoi. Finalement, le film, c'est vraiment... Tu sais, ils sont 5, ou peut-être même, ils sont 6 dans NWA, mais tu sais, t'as l'impression qu'ils sont 3, là. T'as l'impression que c'est Ice Cube, Dr. Dre, puis Eazy-E, que les autres, c'est des meubles. Est-ce que c'est une critique? Non, je pense qu'ils comprennent où est-ce que leur argent est, puis ils essaient de capitaliser là-dessus. Mais oui, donc pour répondre à ta question, ensuite, le film ouvre sur toute la période où Ice Cube est de son côté, où Dr. Dre, finalement, aussi quitte, fonde Death Row. Il y a même, ça jongle même un peu jusqu'à l'arrivée de Snoop Dogg, de Chronic, Nothing But A G-Tank, toute cette période-là. Donc, ça fait très justement histoire du rap West Coast, hein, parce que c'est vraiment une bulle. Ouais. T'sais, jamais qu'on fait mention de rien qu'est-ce qui se passe dans le Sud, rien qu'est-ce qui se passe dans l'Est. C'est comme si le rap West Coast vivait dans une
bulle. De toute façon, c'est pas la raison d'être du film non plus.
Non, c'est ça. C'est pas non plus un documentaire sur ces années-là, puis c'est bien. Mais pour revenir à ma parenthèse, c'est que c'est une histoire révisionniste, mais j'ai l'impression que Ice Cube, peut-être du fait que maintenant il est tellement rendu ailleurs, on dirait qu'il s'en fiche lui. Tu sais, Ice Cube, il y a comme un moment où il arrive dans le studio là, tu sais, du label, puis il s'accache tout à coups de batte de baseball. Il y a un moment où il se fait interviewer, tu sais, par un journaliste qui l'accuse d'être antisémite, puis il a l'air un peu cave, tu sais, dans ses réponses. Il a juste l'air d'un espèce de chien enragé. Mon point, c'est qu'on dirait que Ice Cube, comme producteur, fait moins sentir ses ficelles de vouloir un peu redorer un certain blason. On dirait que lui, il s'en calisse, puis il se décide de se représenter comme le chien enragé qu'il a déjà été. C'est comme si la page était tourné, versus un Dr. Dre que t'as l'impression que comme il était encore là-dedans, même s'il est vraiment rendu ailleurs, il y a une femme depuis
même temps,
15 ans, il y a 50 ans.
Il a vendu Beats pour je sais pas combien de milliards à Apple. Là.
C'est ça, il s'autoproclame le premier milliardaire du hip-hop. D'un côté, il est ailleurs, mais d'un autre côté, il est encore là-dedans peut-être, puis...
Peut-être qu'étant genre le DJ et le producteur, principalement, il est peut-être plus habitué à contrôler ce qui sort finalement.
Peut-être, je sais pas. C'est peut-être ce qui empêche Straight Outta Compton d'être un grand film. Je reviens encore au cas de figure de le documentaire sur Roger Ebert, qu'on sent que c'est peut-être tellement trop... Tu sais, il vient de décéder et on en fait un documentaire, puis les personnes impliquées sont les amis de Ebert. Donc, finalement, on décide de faire un beau portrait. Mais le beau portrait n'est pas le portrait, tu sais. Puis surtout dans des gars comme ça, que c'est gangster rap, ça le dit, là, genre, soyons gangsta, là, ayons pas peur, tu sais. Puis le film ouvre sur un deal de drogue, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais quand on commence à suivre NWA, tout d'un coup, on décide de mettre du gloss un peu trop, tu sais. C'est ça qui empêche le bon film d'être un grand film, parce que je vais le dire, j'ai aimé ça. C'est 2h30.
Ça a l'air qu'il y a quelques très bonnes séquences de concerts aussi, là.
Ah ouais.
C'est quoi, puis c'est Mathieu Libatic qui fait la direction de la photographie, c'est ça?
Je sais pas, mais c'est l'enrobage est super bon, la musique est vraiment au cœur du film, mais c'est plus que la musique, tu sais, c'est l'époque. L'époque est bien représentée. Les moments de brutalité policière, tu sais, c'est tristement encore d'actualité. Tu
Ouais.
sais, comme par exemple, la police se pointe, puis là, eux autres sont comme là, puis genre, bon, t'sais, not again. Tu sais, comme, il y a quelque chose de même quasiment qui devient comique dans tout ça, mais comique, tu sais, triste, là, tu sais, il faut en rire plutôt qu'en pleurer. Là, le film va haut. À un moment donné, t'as les policiers qui leur disent, vous avez pas le droit de jouer Fuck the Police. Si vous jouez Fuck the Police, on va arrêter votre concert. Évidemment, qu'est-ce que Ice Cube, puis Dr. Dre, puis cette gang-là font? Tu sais, les policiers sont venus nous dire qu'on n'avait pas le droit de jouer tel tune, ben on va la faire. Puis là, évidemment, toute la foule. Puis là, c'est comme l'émeute, incitation à l'émeute. Tu sais, ils ont quand même été profilés par le FBI. Tu sais, c'est une histoire abracadabresque en soi. Et si on s'y intéresse un mini tant soit peu, le film est assez bien fait puis est assez compétent pour vraiment se soutenir. C'est pas vrai, parce qu'un peu, une fois que tout se démantèle puis on a l'impression que chacun va un peu chacun de leur bord, là, on sait plus trop c'est quoi le focus du film. Je trouve que le film perd un peu sa concentration dans la dernière 45 minutes. Oui, c'est bien drôle là, t'sais, de faire un clin d'œil à Tupac en studio, ou c'est bien drôle de faire un coup de coude à genre, OK, on improvise puis on crée Nothing But a G-Tang, puis comme, hey, c'était cool, j'espère que ça va être un hit. Clin d'œil, clin d'œil. T'sais, ça, c'est comme plus comme des bonbons pour raccrocher le spectateur au moment où le film a plus vraiment cette discipline-là d'avoir le spectateur bien accroché. C'est comme si ça prend les petits coups de coude de culture pop pour garder le film. La progression du film. Ce qui marche très bien, c'est la bromance, en fait. T'sais, si vous aimez ça, là, t'sais, des films de bro, là, t'sais, des gars là, qui, derrière leur carapace rough and tough, là, t'sais, ils ont quand même du cœur. Puis comme, il y a quelque chose qui marche très, très bien à ce niveau-là dans Straight Outta Compton. C'est ça qui amène le film ailleurs. C'est ça qui, finalement, rend le film de fiction justifiable. T'sais. C'est ça qui fait que c'est pas juste un documentaire, je pense. T'as des acteurs qui peuvent acter, qui peuvent se serrer dans leurs bras, qui peuvent, t'sais, on est donc là quand il faut qu'on soit là, mais t'sais, on est passé par des chemins difficiles. Pis... Donc, t'sais, le côté très fictif, puis le côté très, on s'y attache comme des personnages de fiction, ben ça marche très bien, tout ça. Donc, ouais, c'est pourquoi pas, t'sais, pourquoi pas faire un film historique sur t'sais, sur NWA, et je trouve qu'il tombe à pic en plus avec tout ce qui se passe. T'sais.
Oui, malheureusement, encore une fois, on rappelle.
Malheureusement, encore.
Ouais, moi, je
très
reviens sur quelque
Scorsese.
chose que tu as dit.
Ouais,
Non,
vas-y.
ben, vas-y, qu'est-ce que tu allais
Non, je veux dire un peu Scorsésien dans son ampleur aussi,
dire?
un genre de rise and fall. Le fall, ma critique, comme je disais, c'est que le fall n'en est pas vraiment un, puis le film s'éparpille dans la dernière, une fois que les choses commencent à s'effriter. Ce serait peut-être ma critique, mais une sacrée ride quand même. Là. Pour un film grand public, là, un film qui a des couilles quand même.
Ben, justement, je reviens à qu'est-ce que tu dis, parce que c'est intéressant, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, tu sais, mettons, quand on va écrire l'histoire du cinéma du 21e siècle, okay? On va dire, bon, les années 2000, qu'est-ce qui ressort? Bon, a priori, les super-héros, tu sais. C'est l'individu qui doit sauver l'Amérique, tu sais, c'est le self-made man, le rêve américain, puis qui est encore plus, qui devient un peu plus patriotique après les attentats du 11 septembre, tu sais.
Oui, absolument.
Avec le traumatisme, tout ça. Et j'ai l'impression qu'avec la crise économique de 2008, soudainement, on entre dans les années 2010, puis là, c'est comme l'individu a pas réussi face aux banques, face au gouvernement, face à la corruption. Fait qu'est-ce qu'on doit faire dans les années 2010? On doit se regrouper, on doit être en équipe. Puis, tu sais, qu'est-ce qui sort vraiment dans les années 2010? Oui, toujours les films de super-héros, mais les films de super-héros qui viennent après les Avengers, qui viennent après les super-équipes, après que Marvel mette en place son plan, genre, comme plus que quinquennal, là, comme sur des décennies. Puis, DC veut faire de même, tu sais, les Justice League, ça s'en vient, Batman contre Superman, etc. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans les James Bond? On met de plus en plus l'emphase aussi sur les collaborateurs, les nouveaux Missions Impossibles, c'est la même chose. T'sais, c'est plus juste Ethan Hunt contre la machine, c'est une équipe qui doit ensemble faire face à tout ça. Puis là, on a justement un Straight Outta Compton encore. Bon, évidemment, ça,
C'est ça.
c'est un film historique, ça se base sur des faits réels, mais on a choisi l'angle d'attaquer le groupe qui est à son plus fort lorsqu'il est tout ensemble.
C'est ça.
Donc, j'ai l'impression que 2010, de plus en plus, qu'on va voir, ça reflète un peu les insécurités qu'on vit en ce moment. suite à la crise économique de 2008, c'est qu'il faut faire équipe. Mm-hmm. Puis Furious 7, c'est pareil. T'sais, Fast and Furious, ça a commencé comme une franchise, là. C'est juste une bromance entre deux gars, genre.
Ouais,
c'est rendu la plus grosse team épique de genre des gens qui peuvent tout faire aux quatre coins du globe puis qui s'en vont, tu sais, faire la fiesta partout dans des chars qui valent 1 million, tu sais.
Ouais.
Donc, non, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un nouveau mouvement qu'on va comprendre de plus en plus avec les années, mais que le super-héros a laissé, dans le fond, la place à la super-équipe.
Ben, ouais, c'est bien dit, parce que c'est... Je pense pas que le film, si ça avait été brandé comme un biopic de Ice Cube ou un biopic de Dr. Dre, je pense pas que ça aurait eu le... Parce que peut-être que là, tout à coup, l'ego, le super-ego, tu sais... est-ce qu'on aurait vraiment été voir le beau biopic de Dr. Dre? Non, mais le groupe qui a déjà eu justement son influence, son apogée, mais qui s'est dissous, puis qui renavigue un peu à travers les eaux troubles, puis qui justement, comme tu le dis, qui était une équipe, qui était soudée, qui s'est... Ça, il y a quelque chose d'universel là-dedans. Il y a quelque chose qui est un peu... Oui, on a Dr. Dre, oui, on a Ice Cube, tout ça, mais effectivement, je trouve que le puis en fait, qui sont beaucoup plus connus que NWA. Hein. Il y a beaucoup de monde qui connaissent Dr. Dre, puis qui pourraient, tu sais, qui savaient peut-être pas que NWA a déjà existé. Peut-être qu'ils connaissaient Straight Outta Compton, Fuck the Police. Mais je sais pas, NWA a été tellement comme une empreinte de 1988 avec leur premier album. Puis ensuite, chacun a eu leur carrière solo, puis on s'est dissous. Donc, pourquoi finalement décider de faire un film sur l'empreinte historique plutôt que sur les légendes qui vivent encore aujourd'hui comme légendes individuelles? Ben, c'est une bonne question, puis on l'explique drôlement le succès peut-être de NWA, puis peut-être que ça va faire un peu de ben, en parallèle avec ce que tu dis, mm-hmm. par rapport à la super équipe, il y a quelque chose dans le... Ouais, non, je réfléchis tout haut, mais je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ce que t'apportes.
Fait que là, qu'est-ce que tu veux voir après? Est-ce que tu veux voir l'arrivée de Snoop Dogg? Est-ce que t'aimerais mieux voir un film sur Wu-Tang?
Ouais, un film sur Wu-Tang, ça serait bien plus ça, là. Ouais. Vois-tu? Non, mais c'est vrai, on dirait que c'est intéressant, ça. Parce que tu le sais que, mettons, tu fais un film sur Wu-Tang, là. Tu sais que ça va être autant un film sur les dramas intérieurs d'une gang de gars qui ont été de la rue, qui sont avenus tout à coup, un succès impossible, puis qu'après ça, ça devient des guerres d'ego, tu sais, chacun veut sa part du gâteau, tout le monde veut se battre, tu sais, Raekwon est allé faire ses albums solo, Reze est allé faire ses albums solo, ils sont tous été faire ça, Method Man, dans le cas du Wu-Tang Clan, c'est que tu le sais que tu vas avoir du drama, parce que tu le sais que le groupe s'est effrité, puis t'as comme un peu le plaisir malsain de voir un peu le comment du pourquoi, tu sais.
Sauf si Reze produit le film, puis...
Ben, c'est ça qui arrive, tu sais. Mais vraiment, je veux revenir sur le fait que Ice Cube fait pas sentir, je trouve, son crédit de producteur trop.
Alors que pourtant, maintenant, sa carrière, c'est surtout dans des films familiaux. Ouais. Tu sais, il joue aussi dans des trucs comme les 21 Jump Street, mais tu sais, son image publique, maintenant, elle est beaucoup plus, justement, grand public. Là.
Alors qu'à une certaine époque, Ice Cube foutait la chienne. Ouais. Tu sais, dans le temps de ses deux premiers albums, là, dans America's Most Wanted, puis dans Dead Certificate, là, c'était un chien enragé. Là. Tout le monde y passait. Là. Mm-hmm. Le blanc, l'asiatique, le gay, le juif, le nommez-les. Là, je veux dire, c'était... Là, il tirait sur tout ce qui bougeait. Il foutait la chienne. Là. Genre, c'était un règne de terreur. Puis maintenant, Ice Cube, c'est comme good old Ice Cube. Là. Je sais pas comment dire. Il est drôle, il est le fun. Il est, je sais pas. Donc, comme on dirait qu'il a fait tout le spectre, là, il est passé là, du c'est ça, du chien enragé à maintenant cette figure-là paternelle quasiment. Il n'y a plus rien à prouver, tu sais. Mais je veux vraiment lancer des fleurs à O'Shea Jackson, qui est le fils d'Ice Cube, qui joue Ice Cube dans le film Straight Outta Compton. Il est incroyable. C'est de loin la meilleure performance d'acteur.
Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a une ressemblance aussi frappante. Donc,
ouais, ben oui, on l'expliquera. Ouais. Le fils de Eazy-E avait auditionné pour jouer jeune Eazy-E, puis ça a comme pas marché finalement. Il est resté consultant et tout ça, mais... Puis d'ailleurs, Ice Cube et l'équipe voulaient vraiment pas que ça paraisse qu'il a été juste casté parce que c'était le fils d'Ice Cube. Je pense qu'il était attendu qu'avec une brique puis un fanal, il était condamné à l'excellence dans Straight Outta Compton.
Est-ce qu'il s'en sort bien?
Il s'en sort très très bien. D'ailleurs, il s'en sort tellement bien que je l'ai trouvé vraiment... En fait, ça faisait peut-être miroiter des performances qui étaient peut-être moins bonnes. Okay. Lui qui joue Eazy-E, pas toujours juste, pas toujours incroyable. Dr. Dre, bien... mais un petit peu trop angélique, je trouve, peut-être. Ils ont comme donné le casting de jeune premier qui ne sied pas nécessairement aussi bien l'univers du film que ça aurait peut-être pu. Vraiment, là, lui qui s'en sort complètement au-dessus de la mêlée, c'est le fils d'Ice Cube, carrément. Oshie Jackson qui nous fait vraiment oublier. Hein. On dirait qu'on écoute un documentaire tout à coup. Là. C'est comme, il nous faut oublier que c'est le fils d'eux, il devient jeune Ice Cube. C'est vraiment, vraiment troublant. T'sais. Alors que tous les autres, on voit les acteurs. T'sais. L'acteur qui incarne Dr. Dre, il passe jamais outre l'acteur qui incarne Dr. Dre, je trouve.
En même temps, c'est drôle parce que, tu sais, comme des fois, on entend parler de certains acteurs qui incarnent des vraies figures, puis qui vont aller, tu sais, ils vont aller visiter la personne, jaser avec, pour essayer de voir un peu c'est qui, mais tu sais, le fils d'Ice Cube, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 25 ans qu'il se prépare pour ce rôle-là, dans le fond. Là.
Dans un sens, tu sais. Mais il s'est aussi préparé réellement longtemps, hein, parce que ça a été quand même en chantier pendant un certain temps, Straight Outta Compton, puis supposément que Ice Cube lui-même aussi était très exigeant vers son fils. T'sais, c'est pas genre, t'as pas de passe-droit parce que t'es mon fils. Ouais, ouais. À la limite, c'est l'inverse. Mm-hmm. T'es comme, t'es mieux d'être bon parce que t'es mon fils. Puis je pense qu'il a pris plein de cours avec des coachs d'acteurs vraiment renommés à Hollywood. Il s'est vraiment, vraiment immergé profondément dans le rôle. Puis tu le sens que c'est pris au sérieux. Puis aussi, hein, il y a des sérieuses aptitudes de rap. Parce que le danger, c'est que Ice Cube... En fait, pourquoi NWA a fonctionné? C'est parce que d'un côté, t'as le meilleur producteur du moment, là, tu sais, le petit prodige, c'est Dre. Mais t'as aussi le meilleur MC, tu sais, comme Eazy-E ou les autres de NWA, c'était pas des rappeurs, tu sais, c'est pas les plus grands MC qu'il y a pas. Mais Ice Cube, il y avait un réel don dans ses jeunes années, là, c'est comme tu l'écoutes, puis c'est magnétique, quelque chose qui se passe. Mais c'est dur, donc, de rendre ça. Il faut que, dans le film, quand l'acteur qui incarne Ice Cube rappe, il faut qu'il y ait de la magie qui se passe parce que il fallait que ça opérait comme ça. Le groupe opérait comme ça, tu sais.
Il faut que tu regardes de convaincre que c'était qui a marqué les esprits.
Exactement, que c'était une force de la nature. Ouais. Et comme dans du beurre, genre Oshie Jackson, là, il pogne le mic, puis c'est esti qui pense. Là. Il est vraiment, vraiment incroyable. Donc, moi, là, c'est une nouvelle voix. Là. C'est un jeune acteur qui j'espère qu'on va le voir ailleurs, qu'il va finalement se sortir de l'image du fils de... Surtout quand ton premier rôle, c'est de jouer le film. Mais je lui souhaite que du bon. C'est très impressionnant ce qui a été cherché dans Straight Outta Compton.
Bon, mais j'ai très hâte de voir ça. Pour répondre à ma propre question, moi, je te dirais que j'aimerais bien voir un film sur I Am.
Oh, ouais! Oui, tellement!
Il pourrait jouer sur un peu la différence, puis le mythe de l'Amérique du point de vue des Français. Puis je te dirais même que je voudrais bien voir Abdelatif Kechiche à la barre de ça pour aller chercher une vérité qui serait dure là, pendant les enregistrements, puis des longues scènes. Ouais. Là. Ça, c'est un petit rêve comme ça.
Je suis le premier en ligne pour aller voir ce film, Paul.
Nous, c'est un autre point de vue. On va se quitter sur la bande-annonce de Mistress America de Noah Baumbach. Ah, oui. Qui renoue Baumbach avec Greta Gerwig.
Oui.
Et Baumbach, son deuxième film à Montréal, quelques mois seulement après While We're Young. Donc,
Guess who's back? Noah Baumbach, yo.
Voilà.
Shit.
Donc, les hasards de la distribution, des fois, font qu'on a deux films rapprochés d'un auteur. Ouais. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé While We're Young. J'espère que je vais autant aimer Mistress America. Ouais. Donc, c'est un autre point de vue. Mon nom est Paul Landréau. J'étais avec mon collègue.
Pascal Plan.
Hi. This is Tracy Fishko. I go to a college in the city, and my mom said I should call you. My mom is marrying your dad.
Do you want to hang out? Do you know where Times Square is?
Tracy!
Times Square is so crazy.
Isn't it?
I don't know anyone who lives here.
Yours truly. I got off the bus from Jersey. I thought this was the cool place to live. It's Times Square.
So stylish.
I know. I freelance as an interior decorator. You know the Bowery Hotel?
Oh my God, yeah.
Well, if you walk about a block south, there's a laser hair removal center that's very hip. I did the waiting room.
She lived exactly how a young woman should live. Who wants to spend her youth well?
Must we document ourselves all the time? Must we?
She did everything and nothing.
You don't know what you're selling. No one will know how to buy it.
What are you selling?
So many things.
Being around her was like being in New York City.
I'm an autodidact. Do you know what that means?
Yes.
That word is one of the things I self-taught myself.
People are always taking my ideas. My ex-friend and nemesis, Mamie Claire, stole my ideas and my fiance. And then she literally stole my cats.
You must seek out this Mamie Claire. Spirit says you have unfinished business with this woman.
You have to listen to Spirit.
The young one is right.
She's not that young. 10 to 12 years younger. We're contemporaries, okay?
What are you doing here? Who are these people?
They're my friends.
The last time I saw you, you were hiding in the bushes. And then you started incoherently yelling at me and my husband about how we had ruined your life. And the time before that, you were throwing up at my wedding.
Are those my cats?
They all love you. You're the good man.
There's no cheating when you're 18. You should all be touching each other all the time.
They all need you.
You're funny because you don't know you're funny.
I know I'm funny. There's nothing I don't know about myself. That's why I can't do therapy. All right, here. Can I start over?
Of course.
That was pretend rewind. Like.